À quoi ressemble le quotidien et l'alimentation d'un joueur de rugby professionnel? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec Pierre Agans. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, sculpteur passionné par la course à pied, amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à Rennes, à la rencontre de Pierre Agans. C'est la première fois que je reçois dans ce podcast un joueur professionnel dans un sport collectif et qui est encore en activité. Pierre a 25 ans, il joue deuxième ligne à Rennes. Un sacré gaillard de près de 2 mètres et 120 kilos qui doit courir, sauter, pousser, plaquer pendant 80 minutes chaque week-end sur des saisons qui durent presque 10 mois. L'an dernier, Pierre et son équipe de Rennes ont été champions de France de Fédéral 1, la 4e division française. Cette année, Rennes joue en National, la 3e division très relevée où figurent de grandes équipes de l'histoire du rugby français comme Bourgoin, Dax, Albi, Narbonne. Avec Pierre, nous allons parler de son quotidien de rugbyman professionnel, comment il s'entraîne, se prépare, se repose et bien entendu mange. Et Pierre l'avoue, il adore manger. Et si nous avons parlé de compléments alimentaires très répandus dans le rugby, de l'importance de l'hydratation, nous avons aussi parlé de barbecue et de l'importance des moments de convivialité dans ce sport où rien ne peut se faire sans ses coéquipiers. Et si la victoire se gagnait, non pas seulement dans l'assiette, mais autour de l'assiette, dans ces moments où on partage les repas. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Allez, c'est parti. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ah, ça va très bien, merci. Et toi?
Ça va très bien. Écoute, eh bien, je suis très content de te recevoir dans le podcast parce que c'est la première fois qu'on a quelqu'un, un sportif pro, dans le sport collectif, parce que jusqu'à maintenant on n'a eu que des solitaires en fait, tu vois, des gens qui courent, qui nagent, qui font du vélo, mais souvent tout seul, même s'il y a des équipes. Toi, ton sport à toi, c'est le rugby. Vous êtes un, on va dire, je sais pas combien vous êtes combien de joueurs dans une équipe à Rennes.
Dans une équipe, bah, y a les pros les plus réactifs, les jeunes, les nouveaux. Enfin, on doit être un groupe de 40 joueurs, je dirais.
40 joueurs. Ouais. 40 joueurs, donc c'est vrai que c'est sacré effectif. Donc tu joues à Rennes, vous jouez en fédéral, non, national.
Non, national, mais non.
Excuse-moi. Tu sais pourquoi je me suis trompé?
C'était l'année dernière. Ouais. Et je suis pas un peu fier de le dire, on a été champion de France, du coup on est monté en national 1.
Et tu sais pourquoi je me suis trompé? Parce que en fait, juste avant de te parler, j'ai regardé la vidéo.
La vidéo de?
Du discours.
Ah,
à la vestiaire.
Ah ouais.
Je suis obligé de mettre un lien, tu vois. Et là, juste en t'en parlant, moi j'ai la chair de poule.
Allez, on est ensemble, on se lâche pas. On a 4 minutes, les gars. J'ai la tête rongée. Les putains de monop. On y va, allez. Je vais un bouclier. Il faut un bouclier pour se marquer. Se remordre un petit arbre. Se rappeler de tous les moments qu'on a vécu. C'est maintenant, 4 minutes. Une intensité où ils seront pas capables de mettre. Vous allez la mettre. Vous allez la mettre.
Allez.
Tu restes avec nous.
Et je dis, putain, mais quand même, ce discours, il a fait le tour de la France, tour du monde, j'imagine, parce que il a été vu je sais pas combien de milliers de fois, quoi. Mais ouais. C'est un moment extrêmement fort, quoi.
Ah, c'est le capitaine, il a des mots très durs. Lui, il est là depuis, ça fait plus de 10 ans, je crois, qu'il est au club. C'est sa terre, son territoire, il est né ici. Et on sait que par rapport à ce qu'il dit et par rapport aux actes qu'il fait, on est obligé de le suivre. Et c'est ça qui nous saisit, c'est ça qui nous transporte. Et là, c'était une finale. Les mots ont été durs, mais très justes. Vu de l'extérieur, ça peut paraître un peu bizarre de dire des mots comme ça, mais nous, ça nous a transcendés, quoi. Et du coup, bah, quel plaisir. En revoyant les images, on s'aperçoit vraiment qu'on a fait quelque chose de grand et c'est parti d'un discours comme ça, quoi.
Ouais, ça donne la chair de poule, hein. C'est vrai que pour ceux qui sont pas dans le sport collectif, quand même le sport co, il y a quand même ce truc là parce que on le dit, hein, 40 gaillards. La saison, elle commence quand pour vous en fait?
Bah, la saison, elle commence, ça dépend, mais c'est au début de l'été, on va dire autour du début juillet. Début juillet, là, ça a été un peu particulier. On a 2 mois de préparation physique où c'est vachement, vachement intense. Beaucoup de cardio, beaucoup de muscu pour préparer le corps à toute la saison, au choc, à répétition et tout ça. Et donc, on fait tout juillet, tout août en général, c'est la préparation physique avec un stage en début août. Avec des matchs amicaux en août aussi, et après on reprend début septembre généralement le championnat, et on finit, ça dépend si on fait les phases finales ou pas, entre mai et juin, quoi.
Ouais, ça fait presque un an quand même, hein.
Presque
Ouais.
un an, avec toujours un mois de coupure, et on reprend 2 mois et la saison, et c'est un rythme qui est comme ça, ouais. Presque un an, après on coupe à Noël, entre 15 et 20 jours en général. Et aussi entre les blocs de matchs qui sont souvent de 4 matchs, on fait 4 matchs d'affilée, on a quelques jours de coupure pour un peu régénérer le corps, quoi.
Et puis surtout avec une particularité au rugby quand même, où je trouve que c'est un sport qui est très cruel pour décrocher aller chercher un bouclier, c'est que en fait t'as une saison régulière et puis t'as ces derniers matchs de la fin. Et puis tu sais, moi je suis à Clermont et à Clermont on était le club d'avoir perdu toutes les finales avant d'en gagner. Il a fallu en jouer 10 avant d'en gagner une, etc. Et on avait ce truc-là. Et 4 ans d'affilée, tu vas en finale, et tu te dis putain mais on la perd, on la perd, on la perd. Ce qui veut dire qu'il faut être fort toute la saison, mais il faut être super fort encore plus sur les derniers matchs, les derniers mois, là où après 11 mois, quoi.
Ah ouais, c'est cruel là-dessus. Ben, c'est les phases finales, que ce soit dans le rugby ou dans tous les autres sports, c'est les phases finales, c'est des matchs couperés, on va dire. Et on l'a vu, nous, cette année, on a fini quatrième de notre poule et on a éliminé des premiers, des premiers, des premiers. Et en fait, ils ont été premiers toute la saison. Ils ont survolé leur poule et nous, on les a battus au dernier moment, quoi. Alors qu'eux, toute la saison, ils étaient en avance, ils avaient perdu un match ou 2 matchs. Et c'est là que c'est cruel, mais c'est là aussi qu'il faut être préparé, c'est là aussi qu'il faut avoir un petit peu de chance, on va dire, c'est vrai, hein, ça compte dans le sport. Mais on se prépare aussi pour ces matchs-là, hein. C'est pour ça qu'on vit, on est animé par ça, donc c'est le sport, c'est la loi du sport, que ce soit dans le rugby ou dans d'autres sports collectifs, c'est dur à ces moments-là, dur ou très bien pour ceux qui gagnent, quoi.
Ouais, mais n'empêche que bon, tu peux te dire, t'en as touché au moins un de ces boucliers-là, parce que ils sont durs à aller chercher dans le rugby quand même, hein.
Ah, ils sont durs. J'avais déjà été champion de France quand j'étais petit en cadet. Je devais avoir 15-16 ans avec Toulouse, où on avait fait une saison où on était invaincu. On n'avait pas perdu un seul match. Et je me souviens encore, finale le jour de la fête des mères à Le 4. Et champion de France, ouais. Et c'est presque 10 ans après que j'en retouche un. Et je ne sais pas si j'en retoucherai un, le bouclier comme ça, c'est incroyable. Donc c'est plaisir, le plaisir il est pris, les souvenirs dans la tête et voilà.
J'ai même pas dit ton âge en fait, on a pas parce qu'on a attaqué direct, parce que tu sais moi je suis dans l'émotion, je suis dans ces images-là, etc. J'ai regardé le truc, etc. Puis moi je dis bon, en plus faut le dire, pour ceux qui connaisseraient en rugby, tu joues deuxième ligne, qui
Oui,
est
deuxième ligne, c'est ça.
moi franchement je sais pas ce poste-là. Enfin, il y a les premières lignes et les deuxièmes lignes, je comprends pas trop la logique. J'ai joué un an en rugby, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai suivi tellement de ça et c'est quand même des postes, le deuxième ligne quoi, c'est dur.
Ben, on va dire que c'est un poste un peu, je dirais pas ingrat, mais c'est pas là où on va briller tous les week-ends, quoi. C'est un peu le poste de l'ombre. Si on touche un ou deux ballons dans le match, allez, 3 ballons dans le match, c'est bien. Mais après, c'est surtout de l'aide aux mecs qui sont à côté, quoi. Et on a ben, chaque poste a ben, du boulot qui lui est affilié, quoi. C'est nous, c'est souvent la touche et la mêlée. Et après, c'est être le plus bête possible sur les zones de contact. Non, c'est triste à dire, hein, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que on le dit souvent, hein, entre gars, on le dit souvent que quand on joue devant et quand on joue derrière, c'est pas le même sport.
Ouais.
On fait pas le même sport.
Moi, tu sais, quand je jouais au rugby, je jouais troisième ligne et sur l'aile. Et comme ça, quelqu'un me dit, ouais, mais toi, c'est bon, t'as le bon poste, t'as le bon endroit, t'as les ballons, tu vois les ballons passer, etc. Et avec, une autre fois, j'avais discuté avec une fille qui jouait à Romagna, tu sais, à une époque où c'était championne de France en féminine, en première ligne. Et je viens de discuter comme ça, elle me dit, mais des fois, moi, il y a des matchs où j'ai pas touché un ballon. Elle me dit, mais c'était cool. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais je sais pas quoi en faire, moi, du ballon et tout. Moi, je suis pas une meneuse de ballon, mais j'aime aller chercher les ballons, aller au contact, aller plaquer, etc. J'aime ce truc-là. Et c'est vrai que c'est pas le même sport, en fait. Enfin,
ah non, c'est pas du tout pareil. Ben, déjà, on le voit au gabarit. Nous, les deuxièmes, on est grands, on est lourds, très souvent. Les mecs qui jouent ailier, ils arrivent à peine à 100 kilos, ils sont plus petits, plus vifs. C'est pas du tout la même chose, les impacts c'est pas les mêmes, les courses c'est pas les mêmes, ils courent beaucoup plus que nous, on a plus de contacts dans le match, ben, c'est vraiment différent, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on arrive à jouer ensemble là-dessus, alors qu'on fait pas du tout la même chose sur le terrain, pas du tout, mais ça c'est cool, hein. On s'entend bien avec les trois quarts, on les charrie, mais on s'entend bien quand même avec eux.
Ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, ils ont intérêt à s'entendre bien avec toi, parce que de toute façon, il faut qu'ils aient des ballons. Donc, à un moment donné, il faut que vous allez faire le boulot. Et vous, si vous faites le boulot et qu'eux, ils font rien derrière, après, derrière. Voilà, c'est vraiment le collectif. Et là, on peut pas briller tout seul au rugby. Hein.
Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelques éclairs individuels, mais je veux dire, ça a forcément été amené de quelque chose par les autres. Il n'y a jamais un mec qui prend le ballon, qui tape le coup d'envoi, qui le réceptionne lui-même et qui va marquer tout seul. Ça n'existe pas, ça. C'est toujours, il faut qu'il y ait une conquête, il faut que nous, les gros, on ait fait le travail et qu'on soit là pour les trois quarts. Et les trois quarts, après, ils manient le ballon correctement. Et puis, ils vont marquer. Plus souvent des cas, c'est eux qui marquent.
Ouais. Et c'est marrant parce qu'on dit encore l'expression des gros, mais vous êtes quand même des sacrés athlètes parce que y avait une image quand même dans le rugby, les anciens, les vieux, j'ai envie de dire, où les deuxièmes lignes, les premières lignes, alors on avait l'image des premières lignes qui étaient un peu grassouillées, les deuxièmes lignes qui couraient pas tant que ça, etc., qui étaient très physiques. Moi, tu sais, clairement, on a eu l'homme ennemi, Merle, qui j'ai pas souvenir d'avoir une mobilité exceptionnelle dans ce joueur, tu vois, quand même, alors que maintenant. Enfin, vous avez une mobilité quand même. Vous êtes capable de courir, vous êtes capable de créer des espaces, etc. Quand même en deuxième ligne.
Ouais, c'est sûr. Mais on nous demande en fait ça. Plus le haut niveau, enfin plus le rugby avance, plus le haut niveau demande des critères particuliers. Et en fait, on nous prépare à ça pendant la préparation physique. Et on nous demande à nous forcément de se préparer pour ça, quoi. Et puis, le rugby est vraiment de plus en plus violent. Les impacts sont violents. Mais plus, en fait, les personnes travaillent physiquement. On a de la vitesse, on a de la force. Et plus les impacts sont violents. Donc, il faut être préparé à ça. Si physiquement, on n'est pas préparé, que, comme tu dis, on a rien, on est très gras et que il n'y a rien derrière. C'est un peu compliqué. Hein. Maintenant, c'est devenu vraiment technique sur certains points. Il faut rentrer dans des cases au niveau des temps sur les tests physiques. Il faut rentrer dans des cases au niveau des temps sur les tests de force. Et donc, vraiment, ça, plus ça devient professionnel et plus ça devient strict. Et le moindre détail joue en notre faveur. Quoi. Donc, ouais, c'est vrai que ça a vachement évolué. Et la mobilité a évolué aussi. Mais la vitesse du jeu aussi. Tout a évolué, en fait. Tout a évolué vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et c'est pour ça qu'ils nous demandent d'être au top de notre forme le plus longtemps possible.
Et la troisième mi-temps existe encore ou elle est, c'est plus qu'un mythe?
Troisième mi-temps, elle existe encore. Elle existe encore, surtout les soirs de victoire. Enfin, je vous raconte même pas la soirée après la finale gagnée. Ça, c'était fantastique. Enfin, la soirée, la semaine même.
Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est une semaine, quoi.
Ouais, c'est ça. Pour les plus vaillants, ça a duré 3-4 jours. Pour les plus vaillants, ça a duré 5-6 jours. Pour les autres, 3-4. Il y en avait qui bossaient et tout, mais on a fait le match. On est sorti après le match. On est sorti le lundi. On est sorti le mardi. C'était génial. Franchement, c'était génial. Mais oui, la troisième mi-temps, elle existe encore. Elle existe, c'est sûr. Et c'est là aussi que on a beau dire ce qu'on veut, c'est là aussi que les mecs se soudent, c'est là aussi que l'équipe se crée et qu'il y a d'autres moments d'échange que sur le terrain. Quoi. Donc oui, ça existe et il faut que ça existe et il faut que ça reste.
Oui, tu sais, moi j'ai le souvenir, je parlais des finales perdues de l'ASM, mais après une finale perdue, la première de croix de la série avec Bernd Cotter, j'avais vu le bus un jour de l'ASM se garer, tu sais, deux jours après, et il voit descendre que de mort à l'époque. Et Cudmore, tu vois le gabarit qu'il a parce que tu connais bien le poste. Ouais. Et il était, ça ressemblait à un couche culotte avec un espèce de gros bout de bois sur le truc et tout. Ils avaient fait la fête pour souder après la défaite parce que il n'y avait pas la victoire, mais il y avait quand même soudé, etc. Ouais. Et c'est vrai que c'est aussi dans ces moments-là, tu te dis bon bah la saison, elle a quand même été magnifique. Vous en plus, vous avez gagné la montée le match d'avant déjà. Vous étiez sûr de monter?
Ouais, on était sûr de monter parce que c'est les deux finalistes qui montaient et on avait gagné Périgueux là-bas. Et on était sûr de monter. Mais après, on joue une finale. Les finales, on va en jouer quoi? Deux, trois dans sa
Ouais.
vie? Bon, pas comme Clermont. Clermont, ils en jouent 10, mais nous, nous, on en joue deux, trois. Et c'est un match que tout le monde a envie de jouer. C'est un match fou. Donc, même si la montée était acquise, il fallait y aller, quoi. Il fallait y aller. Il fallait aller en finale. Il fallait aller gagner cette finale. Et on dit toujours qu'une finale, ça se perd pas, mais il y a forcément un perdant et il faut le jouer comme si c'était le dernier match qu'on avait joué, quoi. Et ouais, la montée était acquise, mais on avait faim de plus, je pense.
Ouais, et c'est vrai que ça se voit vraiment dans ce discours. Alors bien sûr, je mettrai en lien, mais je dis à tout le monde, hein, préparez-vous, ceux qui n'ont pas vu, mettez-vous bien, 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 parce que là, ça vous fout les poils. Vous allez voir le discours et tout, il tape dedans, etc. Et j'ai vu, il y a des joueurs qui pleurent, hein.
Ah bah, moi le premier, hein, quand on est stressé, forcément, un match comme ça, stressé, la boule au ventre. Il y en a qui sont pas stressés, je sais pas comment ils font, mais il y en a qui sont pas stressés. Moi, stressé, peur de mal faire, il faut pas décevoir, là, c'est la finale. Et puis les mots sortent et l'émotion, elle prend le dessus. Et franchement, oui, les larmes aux yeux, parce qu'on se sent, on est tous ensemble, on se sent, donc on sent la tension qu'il y a. On sent ce qui se passe en se serrant les uns les autres. Ça commence à respirer fort. Il y en a qui lâchent des bruits, ils sont un peu bizarres des fois. Vincent Wenger, il est un peu bizarre. Et même s'il jouait pas là, il crie tout le temps. Mais voilà, chacun a sa manière de se préparer. Mais là, oui, bien sûr, les larmes elles sortent parce que on a la pression et on a vraiment, c'est vraiment l'émotion qui prend le dessus, quoi. Mais il y a deux trois larmes et après, hop, tout le monde se reconcentre et on sait que ça va être la guerre, hein, sur le terrain. Les mecs, ils sont là aussi pour gagner, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que le discours, ça fait passer un peu par toutes les émotions.
Alors, pour avancer ce discours, il y a eu une saison complète. Il y a eu, toi, ta carrière. Alors, on n'a toujours pas dit ton âge, d'ailleurs. T'as quel âge?
25 ans.
25 ans.
Ouais.
Tu joues au rugby depuis quel âge?
Je joue au rugby depuis que j'ai 4 ans. Donc, ça va faire 21 ans ça doit faire 20 ou 21 licences d'affilée que je prends en rugby. Depuis que je suis tout petit, quoi.
Depuis que t'es tout petit. Et à partir de quel moment tu sens que tu peux faire une carrière, que tu peux monter vers le professionnalisme, en fait?
Je dirais aux alentours des 16-17 ans, 15-16 ans, j'ai commencé à jouer. Moi, la plus grosse équipe que j'ai jouée, c'est à Castres quand j'étais jeune. Et puis, ils ont commencé à me dire oui, c'est bien, tout ça. Bon, au début, quand on est jeune, je sais pas trop si on comprend ce qui se passe. On est pris dans des sélections, on est sélectionné pour son département, pour sa région, tout ça. Donc c'est cool, on vit le moment à fond. Et puis arrive le moment où à 18 ans, on signe un premier contrat pour entrer dans les centres de formation. Et il y a quelqu'un qui t'appelle, il y a un agent qui te démarche et qui te dit, bon ben voilà, je t'ai vu jouer, j'aime ce que tu fais, est-ce que je peux être ton agent? Alors il t'explique que c'est un agent, je te couronne et en fait, moi je vais démarcher les clubs pour toi, tout ça, tout ça. Bon, mais ok, on essaye. Et puis à partir de là, quand même, on se dit, s'il y a une personne qui est prête à consacrer du temps pour moi et de l'énergie et tout ça, c'est que je peux quand même faire quelque chose. Et donc à partir de là, quand on signe dans les centres de formation, on commence à s'entraîner avec les pros et tout, et on se dit, là, ça y est, peut-être que c'est parti, et on met toutes les chances de son côté pour y arriver. Donc je dirais 15, 16, 17 ans, peut-être que ça commence là, quoi. Voilà.
Et puis cet âge-là, c'est à quel âge tu commences vraiment à être sérieux dans la prépa, dans l'alimentation, dans la muscu ou te... Parce que c'est quand même les gabarits se construisent assez tôt. Enfin après, toi t'as toujours été grand. Enfin t'es pas.
Oui.
Je veux dire quand tu croises Dupont, t'as croisé Antoine Dupont une fois dans ta
J'ai croisé
carrière.
Antoine Dupont, j'ai joué avec lui, j'ai joué contre lui. Mais même quand je jouais à l'UNSS avec lui quand j'étais au lycée, il était déjà physiquement, c'était un animal. Mais tout le monde disait, ouais, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Et ouais, on voit où il est aujourd'hui, quoi. C'est le meilleur joueur du monde. Hein. Et oui, mais il y en a qui ont des prédispositions physiques. Moi, je suis grand, lui, il était déjà solide, plein d'appui. Et ça aide aussi, hein. C'est une part de chance. Hein. On le choisit pas, mais c'est la nature qui est faite comme ça. Et du coup, oui, à quel âge, voilà. La première fois où je me suis vraiment mis dedans, C'est avant d'arriver à Narbonne où on m'a dit écoute Pierre, tu vas signer 2 ans au centre de formation, tu vas faire la préparation estivale avec les pros et tu seras dans le groupe pour essayer de jouer en Pro D2. Ah, moi j'avais 18 ans et demi là. Ouais, 18 ans, ouais, 18 ans et demi. Et ben là, je me suis inscrit à une salle de muscu, j'ai fait de la muscu pour essayer de me renforcer au maximum. Et puis je suis arrivé à la prépa, je fais une bonne prépa où j'ai perdu presque 10 kilos parce qu'il faisait 35 degrés tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc refondu tout ce que j'avais pris. Et au final, premier match de Pro D2 à 19 ans. Parce que le premier match à Biarritz, bon, mais Pierre, tu seras sur la feuille remplaçant. C'est là où je me suis dit, j'ai bien fait de me préparer, de faire attention un peu à ce que je mangeais et tout ça, quoi. Donc ouais, pour moi, mon cas personnel, ça a été aux alentours de 18 ans, quoi. Je sais qu'il y en a certains qui sont passés par des pôles espoirs et tout ça, ou alors ça, eux, ils ont commencé plus tôt. Mais moi, en ayant suivi la filière normale, entre guillemets, je suis autour de 18 ans, quoi. Puis ouais, on commence à grandir aussi et puis on comprend que, en fait, si on fait pas la muscu comme ça, si on mange pas correctement, qu'on met pas la bonne essence dans le moteur, ça peut pas marcher. Et du coup, c'est à partir de là, je pense, qu'on prend vraiment conscience, quoi.
Mais c'est vrai que on le dit, hein, le rugby se professionnalise de plus en plus, hein, ça va à une vitesse. Moi, tu sais, j'avais fait un épisode avec un footballeur et on en avait parlé. Il me disait, mais moi, à mon époque, on n'était pas très pas très sérieux, tu sais. Et il me disait, il y a 10-20 ans, les footballeurs, ils étaient pas tous sérieux. Moi, j'ai même souvenir, tu sais, on disait, il y a ceux qui fumaient, etc. et tout. Mais dans le rugby aussi, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite, l'accélération, parce que c'est vrai que le business, là, ça pousse fort, fort, fort. Le niveau, le top 14, c'est un championnat qui est extrêmement relevé, mais alors la Pro D2, la Nationale 1, etc., vous avez des joueurs, vous avez tous passé à peu près par des cursus où vous avez croisé les, vous avez joué au plus haut niveau, en espérant pouvoir arriver à ce plus haut niveau. Donc, je veux dire que physiquement, quand on voit ton gabarit, t'es pas un gabarit moindre que ce qu'on trouverait dans du top 14 ou quoi que ce soit. Ah, quoi.
C'est même encore plus en top 14. Ils sont encore plus développés. Après, bon, ils ont pas, c'est pas les mêmes entraînements que nous. C'est pas les mêmes choses, mais je pense qu'il y a toujours certains joueurs. Je sais pas, je saurais pas dire le pourcentage. Je saurais pas dire qui. Je saurais pas dire, mais qui s'en foutent. Font attention à rien, qui ont de la chance, qui ont pas de blessures, qui surfent comme ça et qui ont pas besoin, en fait, par exemple, de bien manger, de pas boire d'alcool, de pas fumer. Ça, après, c'est libre à chacun de penser et de faire comme il veut, quoi. Moi, je sais que si je bois, que je vais fumer et tout ça, c'est mort pour moi, quoi. Je sais que mon corps il va pas suivre. Bon, ça m'arrive, hein, des fois, hein, mais je sais que je mets 3 jours à récupérer et puis les courbatures et puis tout ça. Mais c'est vrai que ça, après, le corps de chacun réagit différemment, hein. Mais je pense qu'en top 14 top 14 pour des deux et même le haut de tableau de National 1, ça doit être encore une autre préparation, ça doit être encore une autre exigence physique. Et là, ça doit être très dur et je pense que les mecs font quand même un peu attention.
Il faut attention, surtout qu'en plus, il y a des événements, puis il y a des trucs qui te font un peu... Tu sais, moi, j'ai vu Rougerie, le changement qu'il a eu dans sa carrière entre le Rougerie de départ et le Rougerie d'arrivée à la fin de sa carrière. C'est plus les mêmes joueurs, c'est plus les mêmes bonhommes, etc. Il y a des entraînements, il y a aussi des faits qui sont un peu marquants dans sa carrière, les blessures qu'il a pu avoir, des choses qui sont un peu... Mais c'est vrai qu'en plus, toi, tu joues à un poste... Enfin, tu prends des coups, faut aller mettre la tête là où les autres ils ont pas envie d'y mettre le pied. Tu dois sauter et porter parce qu'il y a les touches. Faut pousser dans les mêlées. Faut te plier en plus là pour arriver dans la mêlée, etc. Donc il faut des qualités physiques qui se développent et qui sont mais non nombreuses parce que il faut aller courir aussi pour aller au soutien des ballons, etc. Je veux dire, enfin, tu t'entraînes combien de fois par semaine?
Une, deux. Entre 4 et 5 fois, on va dire. Le lundi, on a la récup si on a les matchs. Le mardi matin, on s'entraîne toute la matinée jusqu'à 13h30. Et on fait 9h, 13h30. Le mercredi, on s'entraîne le midi, on s'entraîne le soir. Le jeudi, on a le jour de repos. Et le vendredi, on s'entraîne encore le midi, plus les matchs le week-end. Donc, presque tous les jours, on a un seul jour de repos dans la semaine. Mais après, c'est vrai que ces capacités, elles viennent avec l'âge et tout ce qu'on apprend aussi. Quand on a 18 ans, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Ou alors qu'on fait mal et qu'on s'épuise à faire. Et quand on en a 30, c'est pas la même chose. Je pense qu'il y a des choses qu'on sait faire par l'intelligence et puis par rapport à tout ce qu'on a vécu aussi. Donc ça, c'est pour ça aussi que tu me parles de Rogerie, je pense que quand il était jeune et quand il avait 30 ans, il a eu un vécu derrière lui qui a fait que ça a changé le bonhomme qu'il était, autant physiquement que mentalement, et il s'entraîne différemment, il s'entraîne mieux et plus intelligemment. Donc ça aussi, ça c'est très important de savoir évoluer et de grandir à son poste, quoi.
Tu fais de la muscu, il y a beaucoup de musculation.
Ouais, tous les jours, mardi, mercredi, vendredi, tous les jours, on en fait tous les jours. Il y a des programmes en fonction de la saison. Pendant l'intersaison, là, on casse beaucoup la fibre musculaire pour qu'elle se reconstruise. Après, on passe sur de la force. Après, on passe sur de l'explosivité. Donc, ça dépend. Il y a des cycles dans la saison en fonction de l'état de forme, en fonction de tout. Ouais, c'est muscu lundi pour ceux qui n'ont pas joué, mardi, mercredi, vendredi. Donc, ça en fait. Moi, j'aime pas ça, mais il y en a qui adorent ça, qui c'est leur passion, ils adorent la muscu, ils adorent quand il y a l'heure ou l'heure et demie de muscu, ils adorent ça. Moi, c'est pas mon dada, je le fais parce qu'il faut le faire, mais après, c'est tout, quoi.
T'aimes courir ou c'est quoi ton dada, toi, dans le rugby? C'est quoi qui te plaît?
Moi, j'aime bien la touche, et j'aime bien les heures de tarot aussi dans le bus avec les copains juste avant où on mange bien. Ça, j'aime bien.
Bah, non, tu le dis en plaisantant, mais j'ai vu une déclaration comme quoi t'aimais bien manger, en fait.
Ah bah oui, ça je peux pas le cacher. Et puis, ça, je pense que bien manger, c'est la vie. J'en ai discuté avec une personne il y a 2 jours. Je trouve que manger, c'est fédérer quelque chose toujours, toujours, toujours. Nous, on dit, on va jouer, on est à peu près 5-6 joueurs, 7 joueurs à être tout le temps autour de la table de tarot, toujours les mêmes. Sauf que ce qui nous anime le plus, c'est que chacun cuisine et chacun apporte à manger sur cette table pendant les déplacements. Et c'est ça qui nous... manger, c'est ce qui nous tient en vie. Mais ça nous tient en vie aussi parce qu'on adore ça et qu'il y a toujours un moment convivial autour de la bouffe, quoi. C'est génial.
Vous avez des consignes particulières sur... Vous avez quelqu'un, un nutritionniste, des diététiciens qui suit, qui vous donne des consignes?
Ouais, on a un nutritionniste qui nous suit, il y en a un qui nous suivait l'année dernière, cette année aussi, qui est là pour, il a été là pour gérer les collations qu'on a après les entraînements, en fonction de ceux qui doivent perdre du poids, ceux qui doivent maintenir leur poids, ceux qui doivent prendre du poids. Moi, je sais que j'ai été blessé quand je suis arrivé ici, je me suis fait ligament croisé. En 6 mois, j'avais pris 10 kilos. Et donc j'ai appelé le nutritionniste et de suite la réactivité était top. De suite c'est ok, je te fais ça, le programme. Le matin tu manges ça, tu pèses. Le midi tu manges ça, tu pèses. Le soir tu manges ça, tu pèses. Et je te garantis que dans 2 mois les 10 kilos tu les auras perdus. Et moi qui adore manger, frustré si je mange pas assez, je suis frustré si je mange pas correctement. J'ai dit bon, c'est quand même mon boulot, on va s'y suivre. Et franchement c'est des personnes qui connaissent leur métier. Lui en plus était dans le rugby, donc il savait ce qu'on pouvait ressentir à ce moment-là. Et donc au bout d'un mois et demi, les 10 kilos étaient partis. Et plus l'entraînement physique à côté, bien évidemment. Mais ouais, on est suivi là-dessus, et c'est surtout important d'être suivi quand on a les blessures. Quand on a les blessures, on est souvent pas écarté de l'équipe, mais on s'entraîne pas avec eux sur le terrain. On n'a pas les mêmes horaires d'entraînement, et je trouve important autant physiquement que mentalement que quelqu'un nous suive. Et qu'il soit toujours là, allez, il faut faire ces choses-là, il faut faire ces choses-là, en plus des préparateurs physiques, mais c'est important d'être suivi sur les deux plans.
C'est important. Mais c'est vrai, en plus tu parles de la période de blessure, mais c'est vrai que les croisés, c'est combien de temps d'arrêt?
9 mois.
9 mois, c'est extrêmement long, quoi. C'est-à-dire que quand tu as fait du sport toute ta vie, depuis tes 4 ans, on dit, là, il y a 9 mois d'attente, c'est long, quoi.
C'est horrible, mais c'est une blessure à la con, hein, si je peux dire. Parce qu'une personne normale qui fait pas de sport, qui va dans un bureau tous les jours et qui, elle a pas besoin de croiser. Elle a pas besoin. Nous, au moindre appui, sans croiser, le genou, il part dans l'autre sens et c'est terminé. Et c'est une blessure, on le sait, mais de toute façon, la blessure, elle fait partie du jeu, hein, que ce soit sportif individuel ou collectif, il y aura toujours des blessures. Ça va arriver. Et c'est comme ça, et puis ça nous fait grandir, et mentalement et physiquement ça nous fait grandir, c'est un plus, il faut le prendre comme ça, parce que si pendant 9 mois je m'étais mis dans le canapé à me dire ouais c'est fini, je vais pas revenir, non, ça aurait été compliqué. Mais alors que là, c'était kiné tous les jours et mental à bloc le plus possible, même s'il y a des jours où. Il y a des jours où c'est très très dur, parce qu'on se dit, bah, ça avance pas, ça progresse pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon genou, hier, il allait bien, aujourd'hui, il est gonflé, j'ai mal, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, c'est vrai que la blessure, c'est un frein pour un moment, on va dire. Parce qu'après, on se dit, c'est fait, et on y va, on passe à autre chose. Hein. Mais c'est important que le sportif soit bien entouré dans ces moments-là, que ce soit par la famille, les amis, les coachs, tout ça. Je pense que c'est ce qui fait guérir la blessure plus vite.
Ouais, et puis tu disais, tu as pris du poids, mais c'est guère étonnant parce que tu as un rythme de vie, une alimentation qui correspond à ton activité physique. Et tu dis, non, d'entraînement, la musculation, des besoins. Je sais pas si tu as un nombre de calories, on te dit, il faut que tu manges tant de calories par jour ou ça marche pas comme ça.
Je pense qu'il y en a certains à qui on leur dit, moi, non. Mais je sais à peu près ce que je dois manger par jour pour avoir de l'énergie, par exemple à l'entraînement, si j'ai l'entraînement le soir ou quoi. C'est à peu près toujours la même chose, hein. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a certains qui sont fixés là-dessus, mais moi je sais pas. Il faudrait calculer, ça peut être intéressant. Mais moi j'ai aucune idée de combien de calories il me faut par jour. Je sais de combien d'assiettes et à quoi ressemble l'assiette pour que je mange, mais après.
Eh ben justement, à quoi ressemble ton assiette?
Ça dépend, hein. On va dire que le matin, c'est j'ai pris maintenant par habitude de faire un café classique. Ça fait plaisir, toujours le café le matin. L'odeur du café le matin, c'est important. Et après, je me fais une espèce de tortilla que je fais à la poêle avec des œufs, du flocon d'avoine, du muesli pour un peu de sucre. Ça fait plaisir. Du sirop d'agave et du beurre de cacahuète. Au moins, je sais que je suis calé et
Ah,
je suis
je t'ai recette.
calé. Allez, pas compliqué. Tout ce que je t'ai dit, tu le mets dans un bol, tu fais comme une omelette et tu fais cuire dans une poêle. Il n'y a rien de compliqué,
Mais
non, c'est
écoute, demain
bon.
matin, je le fais parce que en fait, j'ai à peu près le même petit déj, mais sauf que moi, je le mets pas dans ma gamelle. Mais j'ai à peu près les mêmes compositions dans mon petit déj, mais tu vois, ça me rassure. Je me dis, tiens, allez.
C'est une habitude, un petit truc qui est vite fait, qui prend 10 minutes et qui tient au ventre et tout ça. Après. On a peut-être, ça dépend à quelle heure on a la muscu, on a une petite collation, un petit fruit avec une barre de céréales, un shaker de protéines ou un truc comme ça à 10 h. Après, on remange à midi. À chaque repas, j'essaye de manger viande, féculents, légumes, tous les repas, c'est possible. Viande ou poisson, bien sûr, le plus possible. Bah, souvent, à 16 h 30, 17 h, j'ai faim encore. Donc, ouais, là, ça dépend. Le goûter, c'est plaisir. Moi, je suis pas très bonbon, pas très gâteau, pas sucre et tout ça, donc c'est souvent peut-être même un petit sandwich avec du jambon. Je préfère le salé au sucré. Là, je me fais plaisir parce que je sais que mon corps s'est dépensé la matinée, qu'il va avoir besoin de reconstruire le soir, donc je me fais plaisir là-dessus. Et le soir, en général, on essaye de prendre des féculents, mais un peu moins, et toujours après viande, poisson. Légumes, laitage et tout ça. Donc, c'est vrai que les repas, ils sont assez conséquents sur la journée.
Ah ouais, puis tu cherches en protéines quand même, hein, parce que viande, poisson, œuf, shaker et
Moi,
compagnie, hein.
bon, après ça, je pense qu'on en a besoin. Et puis, les protéines pour le corps, c'est important. Bon, faut pas trop en mettre non plus, mais c'est, ouais, chaque repas, enfin, je sais pas si c'est bon, je sais pas si c'est pas bon, mais chaque repas, moi, j'ai besoin de viande ou de poisson, je sais pas manger sans. Hein. C'est pas possible. C'est une habitude qui a été faite comme ça. Si je vois un repas arriver sans viande, je me dis qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est que soit on n'a plus rien à la maison, soit ça va pas, quoi. Mais ouais, c'est une habitude qui a été prise et ouais, c'est à chaque fois, tous les jours, tous les jours.
Mais après, les viandes, t'as droit à toutes les viandes ou t'as une limite? On dit ouais, il faudrait quand même plus manger de poulet que de viande rouge ou finalement.
Je me fais plaisir surtout. C'est poulet, c'est viande rouge, c'est du thon, c'est moi qui pêche, c'est du bar, c'est de la vieille, c'est du poisson, c'est tout ce qu'on a, tout ce qui est le plus consistant, quoi, parce que c'est quand même plus consistant que des légumes. Mais tout. Moi, je me limite pas là-dessus. Je sais que le poulet, c'est hyper bon, parce que c'est une viande qui est un peu maigre et qu'il y a des bons apports. Qu'il faut pas trop manger de viande rouge par rapport au tendon et tout ça, mais ça, je préfère me faire plaisir à manger une bonne entrecôte soir en train de l'entraînement que me dire ah, il faut que je mange du poulet. Non, non. Ça, c'est avant tout plaisir et après, plaisir combiné avec faire attention sur ce qu'on mange, quoi.
Et je sais pas si t'as joué, si t'as des Argentins, des Sud-Africains dans ton équipe et tout.
J'ai un Argentin qui est coloc avec moi.
Ouais. J'imagine que les barbecues, ça doit quand même y aller, quoi.
Ah ouais, bon, celui que j'ai, il sait pas faire les barbecues, parce qu'on lui a dit de faire le barbecue une fois, il a fini au sèche-cheveux, donc... Non, je rigole, c'est qu'on l'a pressé. Mais là, il y a un nouveau qui est arrivé, qui a joué 15 ans en Pro D2 et tout ça, Carlos Muzio, qui nous a fait un asado l'autre jour, qui a fait venir de la viande d'Espagne, il me semble, sur quelqu'un qui connaissait, qui a préparé la viande, qui nous a préparé une sauce, et franchement, je l'ai remercié 10 fois... On n'a jamais mangé de la viande comme ça. C'était incroyable. Je ne sais pas si... Bon, il y a certainement la viande, mais il y a certainement la préparation de la viande aussi. Et il y a le comment la faire cuire. Et c'était franchement fantastique. On a mangé plein de morceaux de viande différents. Et le goût, la viande, c'était du beurre. C'était facile à manger. Et franchement, il y en a certains qui ont le savoir-faire là-dessus qui est incroyable. Et ça, c'est plaisir.
Ouais. Et je le dis parce que c'est vrai qu'il y a des équipes où on le sait, où les Argentins, des fois, ils disent, quand il y a plusieurs Argentins, ils disent, bon, on invite l'équipe. Parce qu'il y a et les Sud-Africains, les Argentins sont réputés quand même, hein, sur ces viandes rouges,
ouais,
sur les barbecues et tout. Et je sais que, des fois, pour souder l'équipe, justement, il y en a, ils disent, bah, tiens, le barbecue, c'est les 2-3 Argentins de l'équipe qui les organisent, etc.
C'est ça.
Et là, on voit aussi que, c'est vrai qu'il y a l'alimentation plaisir qui soude, etc. Que c'est vraiment un rôle qui est vraiment super important parce que vous êtes vraiment tous ensemble, quoi.
Ouais, c'est. Ben, en fait, on aime manger, hein, tous, hein, tous autant qu'on est. On aime manger. Et quand on se retrouve là autour, c'est des parties de palais, c'est des parties de pétanque, c'est des parties de cartes. C'est juste faire cuire la viande avec les mecs, passer 3-4 heures autour du barbecue. Et ça, vraiment, en plus de l'alimentation plaisir qu'on a, c'est souder la chose. On fait souvent des repas séparés. Bon, on sépare l'équipe en deux, on prend les trois quarts mangent ensemble, les avants mangent ensemble.
Ouais.
Et moi, je me souviens de l'année dernière où on a fait un repas au Béret à Rennes, là où on a été très bien accueillis et tout ça, où on a mangé 17 kilos de côte de bœuf. On était, je crois qu'on était 20. On a mangé 17 kilos de côte de bœuf, plus par personne, un demi-mont d'or par personne, avec des huîtres, des escargots, tout ça. Et puis, on n'en avait pas assez, donc ils nous ont mis des frites à volonté. Et puis, on n'en avait pas assez, donc ils ont sorti toutes les pièces de bœuf qu'ils avaient, les entrecôtes et tout, qu'ils nous ont découpées. Et franchement, on a passé un super moment. Et 20 personnes assises autour d'une table à picoler un petit peu, à boire des trous normands. Je sais pas si bon, tout le monde ne doit pas connaître, mais les trous normands, c'est une espèce de glace avec de la liqueur dessous. C'est en fait entre chaque plat pour faire passer les plats. C'est pas très bon, mais ça a le mérite d'être là. Et oui, on voit que on fédère souvent en fait autour d'un point commun qui est à manger, quoi. Souvent, très souvent. Souvent, et ça, c'est des moments qui marquent, c'est des moments qui soudent, et chaque année, on fait 2-3 fois ça, quoi.
Mais c'est vrai que c'est des moments, c'est vraiment important, hein, ces moments de parce qu'on est, on répète, c'est vraiment un sport collectif où vous ne pouvez pas exister tout seul. De toute façon,
non,
c'est impossible d'exister tout seul. Le joueur qui part tout seul, comme au foot, qui partirait tout seul, marquer son but tout seul, ou qui tire du milieu de terrain, c'est un truc qui n'existe pas au rugby, c'est impossible.
Non, on a quelquefois les ailiers, comme j'ai dit au début, là, qui font des éclairs de génie. Hein. L'année dernière, on avait Gaël Dréan qui a signé à Toulon. Là. Il y a des fois, je me disais, mais on se relevait d'une phase de conquête, d'une mêlée ou une douche. Et tu te dis, mais comment il fait? Comment c'est possible? Il est déjà là-bas, il était déjà dans le but. Et bon, voilà, il a signé à Toulon, il est passé de Fédéral 1 à Top 14. Donc, en plus, c'est un super gars. On comptait sur ses qualités physiques pour faire ça, mais après il n'y a jamais de mecs qui sont tout seuls. Et souvent le mec qui est vachement individuel, il est mis hors du groupe, quoi. Ça se fait tout seul naturellement, parce que il n'y a pas ça. Alors, entre nous, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Et puis même les coachs, je sais que le coach de Rennes fait attention dans le recrutement et dans les mecs qui recrutent, à recruter des mecs qui physiquement et mentalement collent au groupe qui est déjà là, quoi. Et ça, c'est important. Très important pour l'équipe.
Est-ce qu'il y a des, est-ce que vous prenez des compléments alimentaires, tu sais, est-ce que vous avez besoin de renforcer, enfin, parce que c'est vrai que on parlait des chocs, on parle de la prise de muscles, les tendons, tout ça doit être quand même mis à rude épreuve. On a parlé de tes croisés tout à l'heure, mais c'est quand même la carcasse globale. Hein, il faut pas le prendre mal, mais je dis la carcasse globale avec les tensions qu'il y a sur la carcasse globale. Est-ce qu'il y a besoin de renforcer par l'aliment des choses particulières ou pas?
Bah ouais, et c'est souvent par période. Moi, je sais que par exemple en hiver, on a déjà commencé la saison depuis presque 5 mois,
Ouais.
et je sais que là, souvent, j'ai des petites carences qui commencent à arriver, que ce soit en magnésium, que ce soit en vitamine, que ce soit des trucs comme ça. Donc ouais, des compléments comme ça. Après, il y a des compléments aussi en shaker qu'on prend. Pas tous, mais il y a une bonne partie de l'équipe qui prend des protéines juste pour la récupération du muscle, pour la construction du muscle. Il y a la créatine aussi qui existe, qui permet de se mettre dans le muscle et qui permet de récupérer aussi. Et il y a rien de dopant, hein, dans tout ça. C'est contrôlé par
Mais c'est
des
très surprenant, je peux te dire un truc, parce que je viens de raconter une anecdote. Il y a une année, j'ai visité le Marseille Michelin, et c'était Benjamin Kaiser qui nous a fait la visite. Et il venait juste d'arriver, tu sais, il venait juste d'arriver. T'avais l'impression qu'il était là depuis tout le temps, il venait juste d'arriver. Et il nous amène dans les vestiaires, et dans les vestiaires, il nous dit, bon, là, il y a tel joueur qui se met là, tel joueur qui se met là, etc. Et puis, sur la table, il y avait des bidons de créatine. Mais des trucs énormes. Et tout le monde les a regardés. Il a dit, mais vous avez vraiment ça? Il dit, bah oui, mais après les entraînements, après les matchs, la récupération, on a besoin de ça, etc. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais ceux qui ont vu un match de rugby, qui ont entendu les chocs, qui ont entendu les chocs comme ça fait, que le bruit, que c'est impressionnant, parce que vous mettez de ces cartons quand même, quoi.
Ouais,
Enfin.
c'est un animal de 120 kilos lancé contre un animal de 110 kilos à 20 km heure.
Bon.
Boum, ça tape au milieu, voilà. C'est les chocs, oui, les chocs qui sont importants. Ceux qui vont voir les matchs et qui ont eu la chance d'être près du stade, bah, ça tape à chaque fois. Ou même on l'entend à la télé sur les micros des arbitres, on entend les chocs. Donc c'est pour se dire que ça claque quand même. Hein. Ça claque. Et ouais, la créatine. Il y a quelques années, c'était c'est dopant, il faut pas prendre ça. Mais là, c'est des sites, des trucs de sport qui vendent, c'est conseillé par des nutritionnistes. Il y a les cures à faire, il y a des grammes à respecter et tout. Il y en a dans la viande rouge, hein. Il y a rien de dopant dans la viande rouge. Hein. Donc ouais, en complément, il y a ça, les protéines. Il y en a certains qui prennent des oméga. Il y en a certains qui prennent de la caféine avant les matchs. C'est pas trop dopant, mais il n'y a rien de dopant, mais c'est juste pour mettre un coup de boost. Et après, moi, je ne sais pas ce qu'on peut prendre plus, si, des minéraux en petite pastille, tout ça. Mais après, moi, je prends rien d'autre que ça, quoi.
Ouais, mais c'est comme tu dis, hein, c'est qu'il y a des périodes de l'année où c'est vrai que bon, il y a une grosse préparation intensive sur juillet et août, hein, qui est vraiment là un gros moment. Donc là, j'imagine quand même qu'il faut, il y a vraiment un suivi qui est particulier de bien vous préparer. Et puis ensuite, les matchs, ça, parce que il y a combien de matchs dans une saison là, à peu près?
Il doit y en avoir 25 à peu près. 25-30 avec les phases finales, 25-30, ouais.
On fait pas des pauses énormes non plus. Hein. On disait il y a des blocs de 4 matchs, etc. Il n'y a pas des pauses énormes.
Ah
En
non, non,
plus, je sais pas si vous jouez pendant les fêtes de Noël, vous, à ce
non.
moment-là. Ah, ils vous
On
laissent vous
finit
reposer quand même.
en général au 20 décembre, on
Ouais.
finit. Et on doit reprendre le 4 janvier, par là.
Waouh. Et vous avez de la chance, hein. Parce que alors, en top 14, qu'ils les font jouer maintenant entre les à Noël, quoi. Enfin, le réveillon de
Ah
Noël,
oui, réveillon et
ils le font
tout.
au tarot, quoi.
Ah, ça doit être dur. Hein. Ça doit être dur parce que bah, là, pour nous aussi, c'est une coupure. Tout le monde rentre dans sa famille, tout le monde profite des fêtes de Noël. On mange beaucoup, on boit beaucoup, on se fait plaisir. C'est là qu'on retrouve les amis. Si la ville est loin de là où on habite, donc c'est vraiment des vacances plaisir. Hein. Le Noël, c'est vraiment vacances plaisir, plaisir, plaisir. Et mais pour ceux du top 14, ça doit être compliqué. Je les plains, les pauvres, jouer avant Noël et jouer juste après le Nouvel An, là, ou juste avant le Nouvel An, c'est dur.
Et les coachs et tout, ils ont la pince à graisse là, chez vous là, pour mesurer là si vous êtes sérieux ou pas ou.
Ouais, ça existe, ça. Ça existe. C'est plus le Nutri qui a ça pour voir les évolutions que les coachs, mais ça existe. Je le redoutais quand j'étais plus jeune. Maintenant, je sais que je fais attention à ce que je mange, que ça va, quoi. Et on a des pourcentages en fonction du poste et tout ça à respecter. Et rares ceux qui sont pas dedans, sauf les piliers qui sont un peu grassouillés, quelques-uns, mais eux, c'est pour leur poste, c'est pour leur bien.
Non, mais j'avais rigolé parce qu'un jour, j'avais eu ce cas où, c'est Verne Cotter, qui à l'ASM était quand même, il la pince tous les lundis, je crois qu'il la sortait.
Ah
et,
oui.
Et ou je sais pas, tout, assez régulièrement, tu sais, et un jour, lors des visites de presse et tout, j'avais une carte de presse à ce moment-là, et un gars nous a dit, là, la salle là-bas, là, c'est quand la pince, elle a pas donné le bon chiffre. Il dit, on n'aime pas y aller dans celle-ci parce qu'il y avait un contrôle, c'est vrai, de l'alimentation. Et puis il y a des fois des joueurs. Et là, je me rappelle de Nalaga qui était. Mais alors, et franchement, c'est là où tu dis que c'est la génétique, les habitudes sont totalement différentes parce que si je pense que tu manges avec lui, tu découvrais une forme d'alimentation qui était totalement inconnue pour les sportifs de haut niveau. Et ils ont essayé de leur mettre, tu sais, en disant, il va falloir manger des haricots, il va falloir arrêter les pizzas, les sneakers, etc. Mais il a fait toute sa carrière avec un physique hors norme, en étant le meilleur joueur du monde, parce qu'il a été lui le meilleur joueur du monde, avec une alimentation, je pense que c'est peut-être le seul à pouvoir le faire, mais après avec une course et qu'une dépense physique, la musculation qui était énorme. Mais c'est vrai que il y a à un moment donné une surveillance qui est faite aussi parce que il faut vous amener jusqu'au bout de la saison et justement ce jour-là être en pleine forme quoi.
En fait, il faut tenir quoi. Il faut tenir c'est l'alimentation, boire aussi c'est important. Mm. Et puis les charges d'entraînement, on sait que nous vers la fin les charges d'entraînement elles étaient moindres. Mm. On s'entraînait une fois, deux fois, et puis il fallait pas trop courir, et puis parce qu'on y était depuis 8 mois déjà, et que le corps c'est une machine, hein. C'est au bout d'un moment elle s'use, c'est tout à fait normal. Et voilà, c'est comme je disais, si on met pas la bonne essence, si on mange pas correctement, c'est comme une voiture, hein. Si on n'y met pas la bonne essence, la bonne huile, le bon truc, ça ne va pas marcher. Mmh. Et il y en a qui ont cette chance, cette faculté physique de manger n'importe quoi. Boire n'importe quoi et il leur arrive jamais rien. Et ça, bah, c'est de la chance, c'est des prédispositions physiques, c'est comme ça. Hein. C'est, on peut rien y faire. C'est comme ça. Il y en a qui peuvent manger pizza tous les jours, ils prendront pas de poids. D'autres qui vont prendre 10 kilos en une semaine. Enfin, c'est comme ça. Mais bon, c'est vrai que les coachs et tout ça essayent en nutrition et en charge d'entraînement de nous amener vers le plus haut en étant le plus cohérent possible, quoi.
C'est un truc que t'aimes ou pas, ça, la partie nutrition, où finalement tu te dis ça casse un peu les pieds quand même de temps en temps.
J'aimais pas avant, parce que je me disais ça me gonfle, laissez-moi manger ce que je veux. Et depuis que je me suis blessé, ça change, hein, ça change la vision des choses. Ouais. Je me dis, en fait, c'est vrai que quand tu manges correctement, t'es moins fatigué, l'énergie, pas que je mangeais pas correctement, mais peut-être pas assez régulièrement, ou pas assez les bonnes doses et tout ça. Et c'est intéressant de voir ce qu'on mange, l'impact que ça a sur notre corps. Ça, c'est intéressant. Et après, quand il faut commencer à peser les aliments, je fais la grimace parce que on me dit il faut mettre 100 grammes de riz dans ton assiette, ça fait pas assez. Mais là, je suis pas content. Mais c'est vrai que c'est une partie où tu te dis, ou quand tu commences à étudier, il faut tant grammes de sucre pour tant grammes de protéines, il faut mélanger tout ça, tout ça. C'est intéressant, parce que ça nous aide aussi à savoir comment marche le corps correctement, et savoir comment il fonctionne aussi, avec ce qu'il stocke, ce qu'il rejette, tout ça. C'est intéressant, mais il faut l'avoir fait une fois, il faut avoir détaillé les choses une fois pour s'intéresser, je pense. Mais ouais, maintenant, je suis de plus en plus intéressé à ça. Ça me plaît de regarder comment ça marche.
Oui, puis comme tu disais aussi, en vieillissant, je pense que la récupération... bon, toi, t'es un jeune encore, donc tu sens peut-être pas autant que ça. Mais c'est vrai qu'après, en vieillissant, pour passer la trentaine, etc., il y a peut-être aussi des moments où tu dis, faut peut-être que je me repose plus, que je mange plus de ça, que je fasse plus attention à certaines choses, pour durer. Moi, je l'ai vu dans d'autres sports. J'ai le souvenir d'un joueur de foot qui, à 38 ans, courait plus que les gamins qui en avaient 28 au lendemain d'un match, parce qu'il avait une hygiène de vie qui était incroyable. Et puis d'autres à côté qui avaient une hygiène de vie qui était moyenne, qui tenaient le choc sur la saison, mais qui au bout d'un moment tenaient peut-être moins le choc, etc. Mmh. Et c'est vrai que chacun n'est pas égaux là-dessus. Et c'est intéressant aussi de le voir. Il y a aussi un apprentissage, en fait. C'est que chacun apprend, tu découvres des trucs et tout. Tu te dis, bon, ça j'aime bien, ça j'aime pas trop, ça marche bien. Tu disais ton petit goûter là, mais il y a le nombre de personnes qui redécouvrent le monde quand on leur dit qu'ils ont le droit de prendre un goûter. C'est énorme. Hein,
ah, oui.
Il est nécessaire quand tu vas t'entraîner le soir et tout.
Ah, c'est ça. On l'appelle goûter, collation, nous. Mmh.
Ouais,
c'est qu'en
fait,
il faut que toujours, toujours les réserves qu'on ait pour avoir de l'énergie, il faut qu'elles soient remplies, quoi. Parce que si on arrive, moi je sais que si j'arrive à un entraînement, j'ai rien mangé avant, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Surtout si c'est le deuxième entraînement de la journée, par exemple, c'est compliqué. Hein. Mais oui, c'est ça. Pas grand monde sait qu'il faut manger plusieurs fois. Après, il y en a qui n'ont pas forcément besoin. Hein. S'il n'y a pas d'activité physique, il y en a qui n'ont pas besoin de manger plusieurs fois.
Ouais, mais ceux qui n'ont pas d'activité physique, en général, ils mangent plus que les autres. C'est dans le canapé, on mange des chips
aussi.
et tout. Et je l'ai connu, hein, et je le dis très ouvertement, parce que moi, je sais, je faisais 30 kilos de plus à une époque, et je sais pourquoi, comment j'y suis arrivé. J'ai un point commun avec toi, c'est que moi, quand je me suis fait, moi, c'est mon ménisque. Quand j'étais opéré du ménisque, j'ai aussi pris 10 kilos. Et j'ai aussi vu qu'en fait, en gardant les habitudes de sportif qui court et en enlevant la course, tout d'un coup, il y a un problème, quoi. Il y a une mathématique qui ne marche plus, quoi.
Bien sûr, puis même en étant blessé, mentalement, on n'est pas au top, et puis on se réfugie peut-être dans la boue. On est toute la journée à la maison, enfin moi j'étais toute la journée à la maison, le frigo il était à portée, et bah, vas-y, j'avais même pas faim, mais c'était un petit plaisir comme ça, quoi. Petit plaisir, pas manger un truc, sauf que ça arrivait deux, trois fois dans la journée, forcément, hein, c'est pas bon. Hein. Et qu'on court pas à côté, ouais, mais c'est. Ouais, on peut se réfugier là-dedans, je sais qu'il y en a qui se réfugient là-dedans. Hein. Donc ça dépend de chacun comment réagit chacun, pardon.
Est-ce que vous avez des. Alors, bon, en jouant tous les week-ends, je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que vous avez des consignes particulières en disant 2 jours avant le match, il ne faut pas manger ça, il faut commencer à manger plus de ça. La journée du match, tu parles du tarot, parce qu'il y a quand même des grandes phases d'attente entre les voyages. J'imagine voyager en bus, vous voyagez pas en char à voile, vous, mais. Vous êtes. Ceux qui ont suivi l'actu du foot comprendront, mais. Ceux qui. J'imagine, il y a quand même des phases d'attente. Vous devez voyager, j'imagine, tôt, des fois certains jour parce qu'il y a de la route et tout à faire. On vous donne, on vous dit, bah tiens, tel jour, faudrait plutôt manger ça, il faudrait arrêter de manger certaines choses certains jours ou des choses comme ça, ou finalement pas trop.
Pas trop, parce que si vous asseyez à la table de tarot, franchement, vous avez mangé 5000 calories en 8 heures, quoi. Là, c'est avant les matchs, on ne fait pas forcément attention. Je sais que le jour du match, c'est poulet pâtes, traditionnel poulet pâtes, avec du fromage blanc et tout ça. Moi, je sais que les soirs avant les matchs, je mange gras, et par plaisir, et parce que certains préparateurs physiques m'ont dit que c'était bien de faire un plein complet sur les ressources. Donc, moi, je sais que je fais ça, mais après, non, on n'a pas de demande particulière là-dessus, mis à part qu'avant tous les matchs, on mange du poulet avec des pâtes, quoi. C'est le repas du sportif qui est fait depuis des années. Je ne sais pas si c'est avéré que ce soit bon ou que ce soit pas bon, mais on mange tout le temps ça, quoi. Mais ouais, la table de tarot, elle fait pas trop attention à ce qu'elle met dans son assiette. Ouais. Et bizarrement, il n'y a que les avants. Et à la table de tarot, il n'y a que les avants et puis les avants qui aiment manger. Donc là, voilà, on a refait un petit groupe pour cette année-là. Et puis on a commencé à prévoir le menu, c'est des cookies, far breton, crème aux œufs, tiramisu et des choses comme ça,
Un
quoi.
coup de Yaman.
Je sais, non, ça on l'a pas fait encore.
Ah.
Mais après c'est souvent pâté et nappe, saucisson et toute la compagnie. Mais comme on part la veille avant les matchs, c'est pas grave quoi. Le jour du match on mange pas ça, hein. Non, non.
Ouais, non, mais il faut le dire, parce qu'il y a des moments de sérieux, il y a des moments aussi où on parle
Ah
de cohésion,
ben.
hein.
Il y en a qui ont le boulot toute la semaine et quand ils arrivent là, bah, décompressés, cohésion, tout ça c'est bien. Hein. Ça leur permet de voir autre chose que le boulot aussi. Mais ouais, non, on ne nous demande pas particulièrement de faire attention à ce qu'on mange. Chacun fait à son envie. Et puis quand on est certains professionnels et d'autres jouent au rugby depuis 10 ans, on sait de quoi on a besoin, quoi. C'est plus personnel que des ordres ou des choses qui nous sont données, quoi.
Ouais. Sur l'hydratation, parce que tu as dit c'est important et tout le monde sait que c'est important l'hydratation. C'est quoi? C'est de l'eau? Tu prends des eaux minérales? C'est quoi?
Moi, c'est de l'eau toute la journée, de l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la bouteille, à boire, à boire, à boire. J'ai toujours entendu dire que dès qu'on avait soif, c'est qu'on était déshydraté. Donc, il vaut mieux boire quand t'as pas soif. Et puis, l'eau, c'est essentiel pour le corps, quoi. Moi, c'est de l'eau plate, hein, de l'eau du robinet, normal. Et voilà, c'est tout. Après, il y en a qui préfèrent la rosanna, par exemple. Il y en a qui préfèrent boire de l'eau pétillante. Il y en a qui préfèrent mettre des petits trucs dedans. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je sais que c'est eau plate tout le temps.
Mais tu sais que je crois que c'est ce qui s'en prendra. Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup surpris quand j'ai commencé à regarder les équipes de foot et de rugby pro, toutes les équipes co. C'est de voir tous les joueurs ont toujours une bouteille d'eau à la main.
Ouais.
Après l'entraînement, etc. Et pour venir aux interviews, il y a toujours des bouteilles d'eau, etc. Toujours, toujours, toujours en permanence. Et c'est vrai que moi, j'ai souffert de pas assez boire. Et je sais les conséquences de pas assez boire. Et les histoires de soif, je vois bien ce que c'est. Et c'est vrai que j'avais été marqué parce que moi, j'ai fait des interviews de plein de joueurs et ils ont systématiquement toujours, toujours une bouteille d'eau à la main. Toujours, ouais. Pas forcément très grande, mais qui vont remplir régulièrement. Toujours, ça.
C'est en fait, c'est primordial, je pense, de boire. Primordial. Sinon, après, on a des crampes, on n'est pas bien. Pas trop boire non plus parce que ça te fait mal au ventre. Mais moi, je sais que tout le temps, après le match, je bois. Avant le match, je bois. Là, ce matin, je me suis levé, café, un petit verre d'eau. Je vais chez le kiné, j'ai ma bouteille d'eau. Mmh. Je vais tout le temps. Je pense que c'est important, très important d'avoir tout le temps à boire parce que c'est pareil, c'est l'essence qui fait vivre le corps. Hein, donc c'est quelque chose d'important.
Mmh. Allez, on va sortir de la nutrition, il y a quand même un truc qui m'intéresse. Ouais. Le sommeil, parce que là aussi, ça fait partie aussi de l'hygiène de vie du sportif. Hein.
Ouais.
Là aussi, c'est un truc auquel tu fais attention ou...
Moi, je ne suis pas un exemple là-dessus. Mmh. Je n'arrive pas à dormir. Enfin, je dors très peu. Je dois dormir 6 heures par nuit. 5h30, 6h par nuit, parce que j'ai toujours été comme ça depuis petit. Mes parents, ils ont galéré à me faire dormir quand j'étais tout petit. J'ai jamais dormi, jamais beaucoup. Mon père, c'est pareil. Mais je pense que ouais, c'est aussi important. Hein. C'est la récupération, c'est là que le corps se repose et se recharge. Faudrait y faire attention. Ah si, il faut faire des petites siestes. Ça,
oui,
ça fait du bien.
Ce que j'allais dire. Tu fais des siestes?
Ouais. Quand, par exemple, le mardi, on a entraînement de 9h à 13h30, on rentre, on mange, et une fois qu'on a mangé, sur la digestion, en général, quand on se met dans le canapé ou qu'on se met au lit, il n'y a plus personne. Hein. Mmh. Et là, il ne faut pas passer à la maison entre 15h et 17h parce que c'est terminé. Là, mais ça fait du bien parce que ça ressource. Mmh. Et puis, le corps en a besoin, ouais, des siestes, et essayer de se coucher le plus tôt possible. Après, moi, je sais que là-dessus, ce n'est pas possible. Avant minuit, minuit et demi, 1h du matin, je ne suis jamais au lit. Mais après ça dépend de chacun. J'ai mon coloc qui dort, il fait une sieste le matin, une sieste l'après-midi, et il dort la nuit. Hein. Ah, c'est une marmotte. Hein. Mais ouais, c'est important. C'est important de dormir parce que quand on est fatigué déjà, bah, physiquement on suit pas. Et puis les performances, elles les clignent quoi.
Ouais, mais tu sais, moi j'ai un joueur pro un jour qui m'avait dit, mon boulot à moi, c'est de courir et dormir. Et bien manger autour.
Vrai. Il m'a dit ça.
Ça
m'étonne même pas.
Et il faisait la sieste tous les après-midi. Et ouais. Quand on calait les interviews, les rendez-vous, les trucs, tout était calé pour qu'il ait son temps de repos et autres. Et on le voit hein, d'ailleurs hein, sur quand on voit les stages des équipes de France et tout, il y a les moments de repos, les siestes, etc., qui sont vraiment partie intégrante. Alors pourtant que le sommeil a une tendance à être dit, ouais, mais ça sert à rien de dormir pour certains. On a une tendance à grignoter sur le sommeil et tout. Alors pourtant, quand on voit le sport, et on peut dire dans plein d'autres sports, parce que comment il s'appelle? Kipchoge, qui est le marathonien le plus rapide du monde, il dort peut-être 10 à 12 heures par jour, certaines fois, en faisant entre la grosse sieste, en faisant une grosse nuit, etc. Donc, c'est des réalités, hein. C'est vraiment le fonctionnement du corps. Il a besoin de sommeil et on parle de nutrition, on parle d'alimentation, on parle de tout ça, mais le sommeil fait partie aussi de la récupération, quoi.
Ah, bien sûr, bien évidemment. Nous, même quand on part en déplacement, la journée du match, on a un temps repos, sieste. Quand on a été en stage, on a eu un temps repos-sieste, même si c'est d'une heure ou trois quarts d'heure. Il y a toujours ce petit temps parce qu'on sait que c'est important. Même une sieste de 30 minutes, elle recharge les batteries complètement. Et là, c'est important, il faut respecter ça. Puis quand on est fatigué, ça sert à rien de lutter, quoi. Si on est fatigué, c'est que le corps a besoin de quelque chose. Donc ça sert à rien de lutter. Mais c'est important et c'est respecté dans tous les sports, hein, je pense. Donc il y a toujours ce temps-là.
Est-ce que sur le terrain, sur des matchs et tout, tu as senti des matchs où tu n'as plus de gaz, plus d'énergie, où tu n'avances plus, où tu...
Ouais, y a des fois, ça arrive. Pas sur... en général, pas sur la première mi-temps. Parce que il y a l'excitation avant le match, il y a l'adrénaline, il y a les coups de stress et tout. On coupe une dizaine de minutes à la mi-temps pour repartir. Moi, personnellement, je sais que des fois, c'est compliqué après avoir coupé. Et il y a des matchs, arrivé à la 60e, 60, 65, je mets plus un pied devant l'autre.
Ouais.
Mais baisse d'énergie complète. Alors, est-ce que ça dépend des matchs, hein, mais pendant qu'on faisait les phases finales, là, tout était à la tête. Hein. Il n'y
Ouais.
avait plus d'énergie, mais chez personne. Hein. C'était dur. Il y avait la chaleur et il y avait le stress, il y avait l'émotion, il y avait tout. Et franchement, c'était dur. Et il y a des matchs où ça arrive que même avant le match, j'étais fatigué, complètement à plat. Et on a un regain d'énergie parce qu'on sait que ça dure 80 minutes, c'est pas énorme non plus, mais. Et on a un regain d'énergie, mais il y a des fois, il y a des matchs, c'est dur, hein. C'est dur, dur. On a les jambes coupées, on ne sait pas pourquoi. On n'est pas lucide dans la tête, on ne sait pas pourquoi. Il y a des matchs où ça va très bien. Et de quoi ça dépend, ça? Peut-être de la charge émotionnelle de la semaine, peut-être aussi de la charge d'entraînement qui a été trop importante ou pas
Ouais.
assez, ou du temps, ou de plein de choses, hein. Ça peut dépendre de plein de choses. Hein. Il y a plein de choses qui agissent.
Tu sais combien de kilomètres tu fais dans un match ou ça t'est mesuré ça, ces trucs-là ou
Ben, je
pas?
crois qu'on est entre 4 et 6, non, 5 et 6. 5 et 6 km par match, je
Ouais.
crois, mon poste. Je crois que c'est. En plus, ils l'ont dit lundi, là. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être entre 5 et 6. Ouais. On a tout qui est mesuré, les impacts, les distances de sprint et tout ça, avec les GPS qui sont dans
Ah
le.
ouais, vous avez des GPS?
Ouais, on a des GPS, ouais. Ça permet de savoir. Pour les coachs, ça permet de savoir comment on a bougé, s'il y en a qui ont bougé plus que d'autres, des trucs comme ça, quoi. Le nombre d'impacts et tout ça.
La force, ce que tu as pris, les gros jambes que
Voilà,
tu as
c'est
pris en
ça.
face.
Ouais, parce que je crois que le GPS, il se déclenche pour un impact à un certain nombre de G et tout ça. Donc, ouais, ça, on le sait, ouais. Pour le savoir, on a une petite application qui nous permet de savoir. Moi, je le dis, je l'utilise pas trop parce que. Bon, ça, je m'en fous un peu. Si je cours pas assez, le coach viendra me le dire.
Ouais.
Et après, de savoir combien de fois j'ai tapé contre un mec, personnellement, ça m'apporte rien. Donc, il y a la petite application. Je sais qu'Yoann ne ferait pas. Il nous a donné des codes, mais je les ai jamais rentrés là-dedans. Donc,
Il entend pas, il écoute pas, tout.
non, j'espère qu'il écoutera. Comme ça, il va ronchonner un peu. Non, mais. Ouais, je fais pas attention à ça.
Et je crois qu'il y a des joueurs, tu sais, qui le font plus que d'autres. Parce que moi,
Ah.
j'avais vu, tu sais, dans les visites de stade, il y a les salles vidéo, il y a les séquences. Les mecs, ils envoient les séquences vidéo en disant, et puis il y en a, ils disent, ouais, moi, j'ai pas regardé, l'autre, il a pas un peu regardé. Il y en a qui, je pense qu'il y en a qui sont plus fans des data que d'autres. Et puis, t'as aussi le ressenti, parce que, en fait, tu le sais combien de fois enfin, tu le sens à
Oui.
la fin du match, quoi.
Ouais. Après, il y a les stats GPS. Là, je sais que les trois quarts, ils sont tout le temps en train de le regarder. T'as vu, j'ai fait une pointe à 30 km heure. T'as vu ça? Moi, je dépasse pas les 30, donc ça m'intéresse pas ce qu'il raconte. Et non, après la vidéo qu'on fait en dehors, ça, moi, je regarde énormément. L'analyse des touches, l'analyse de l'attaque, l'analyse de la défense. Ça, je regarde énormément. Et faut que tout le monde le regarde pour être au courant de ce qu'on va jouer le week-end, quoi. Et ça, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus fans de regarder la vidéo, il y en a qui sont plus fans de la pratique, il y en a qui sont plus fans du tableau, il y en a, ça dépend, hein. Mais ouais, c'est vrai que la vidéo, c'est important, on en fait de plus en plus d'ailleurs.
Ouais. Et
Ouais,
puis
on
on
en
voit en
fait.
touche, hein. Tu disais les touches, c'est important parce que
Ouais, les
t'as
touches,
des
c'est
mecs qui sont
important parce
spécialisés
que.
d'aller chercher les cons, d'aller chercher les ballons. Il y a
C'est
plein de
ça.
tactiques en fait. Ça paraît
Ouais.
juste des gars qui sautent en l'air, mais faut
Ah non,
choper le
non,
ballon
c'est pas
là-haut,
ça.
hein.
Hein. Il y a des zones, il y a des zones à respecter, des feintes, des mouvements, des trucs, voir comment ils défendent, voir comment ils attaquent, pour pas se faire piéger. Et on fait une vidéo pratiquement tous les jours. Lundi, il y a vidéo, mardi, il y a vidéo, mercredi, il y a vidéo, vendredi, il y a vidéo. C'est des vidéos sur leur attaque, sur la défense, sur nos touches, sur leurs touches, sur ce qu'on a fait le week-end d'avant, sur les mêlées, sur ce qu'on va faire ce week-end, sur ce qu'on a fait à l'entraînement. C'est de l'analyse permanente, ouais.
Allez, j'ai une question piège, mais tu réponds si tu veux ou pas, mais tu connais toutes les règles du rugby ou il y en a certaines tu as du mal à les comprendre encore?
Ah, franchement, je pense que je les connais toutes. Ah.
T'en as pas, tu te dis, enfin celle-là, il y a des trucs, parce que on l'a déjà vu sur le bord de certains matchs, etc. Même au plus haut niveau, on a vu des fois dire mais pourquoi ils font ça? C'est quoi ce truc-là? Il y a des trucs, etc. avec les
Ouais, il y a
changements
des
de
trucs
règles.
un peu.
Hein, il y a des coquins des fois quand même dans les règles et
Ouais,
tout,
ouais,
et
ouais.
puis dans l'utilisation, hein.
Dans l'utilisation de la règle, et
Ouais.
surtout, en fait, il y en a beaucoup qui utilisent la règle jusqu'au bout du bout,
Ouais.
sans être à la faute. Et ça, c'est des très bons joueurs. Richie Macaux a fait ça toute sa carrière. Il a toujours été à la limite de la limite de la limite, mais jamais sanctionné. Et c'est ça qui a fait un joueur pénible et un sacré joueur. Mais c'est vrai que bah, je pense que c'est important de connaître toutes les règles parce qu'il y a des choses qui arrivent où il faut pas. Par exemple, il y a des à l'avant que si on le reprend devant, on est hors jeu, on prend une pénalité. Ne pas connaître cette règle, c'est donner 3 points facilement à
Ouais.
l'adversaire.
Bon, celle-là encore, tu la connais facilement, quoi. Celle-là, tu vas
Ouais,
dire.
mais il y en a qui inconsciemment reprennent le ballon. C'est un
Ouais.
réflexe. Et après, il y a des règles que, par exemple, dans l'un but, il n'y a pas de hors-jeu. Donc, si le ballon est dans l'un but et qu'il n'est pas aplati, tu peux monter n'importe comment. Il y a des petites règles subtiles comme ça. Il y a des règles des quatre appuis, mais celle-là qui n'est pas toujours respectée. Ah, il y a des petits. Mais je pense qu'en connaître, si je ne les connais pas toutes, au moins 98%.
Ouais, parce que je te dis ça parce que c'est vrai que quand ceux qui sont dans les tribunes, on entend toujours le gars du gars qui dit, attends, il a fait ça n'importe quoi alors qu'il y a la règle. Des fois, on comprend pas toujours comment l'arbitre siffle certains trucs parce
Ouais.
qu'on n'est pas dedans. Et c'est vrai, et la mêlée, il doit se passer de ces trucs là-dedans.
La mêlée, franchement, la mêlée,
Ça
je
s'est
pense que
calmé?
l'arbitre fait ce qu'il veut. L'arbitre, il met le bras à gauche, il met le bras à droite, je
Ouais.
pense qu'il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il a envie. Après, c'est un rapport entre 8 bonhommes qui sont aussi bêtes les uns que les autres à se taper dedans comme ça. Franchement. Non, j'imagine le truc, mais c'est de la technique aussi. Les mecs sont vachement forts, les premières lignes sont vachement forts physiquement. Et puis c'est un boulot ensemble et tout, mais après oui, je pense que l'arbitre fait ce qu'il veut, parce que tout le monde triche là-dedans, ça triche dans tous les
Ouais,
sens.
ce
Hein.
que j'allais te dire, c'est que c'est incroyable, quoi.
Ouais, ça triche dans tous les sens et l'arbitre il à droite, à gauche, mais c'est comme tout dans les rucks, ça triche de partout et l'arbitre il fait ce qu'il veut. Mais je pense que si l'arbitre devait siffler chaque faute qu'il y a sur le terrain, on aurait 5 minutes de temps de jeu sur les matchs, quoi. Et ce serait emmerdant parce que
Ça, c'est sûr.
Des fois, on est emporté par l'élan, on fait une petite faute, on regarde l'arbitre, l'arbitre dit bon, première et dernière fois, des trucs comme ça. Mais à part les fautes flagrantes, bien sûr. Et pour revenir aux personnes qui sont dans les tribunes, les mecs, ils connaissent le rugby, ils n'y ont jamais joué, quoi. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bons arbitres dans les tribunes, hein, des fois, hein, on les entend un peu. Mais c'est drôle, ça fait partie du sport aussi. C'est drôle, c'est sympa.
Bon, je peux pas finir sans en parler, mais l'an prochain c'est quand même la Coupe du Monde de rugby, donc toi tu vas avoir ça d'un œil d'une excitation parce que déjà c'est en France, en plus on se dit cette année on peut l'avoir quoi.
Ah, j'espère. Il y a une équipe de France qui est incroyable depuis quelques matchs là. Avec une jeune génération, c'est un plaisir à regarder jouer. Et on va voir, hein, on va voir. Après, ça a toujours été les favoris. En général, ils se plantent tout le temps. Et puis, c'est comme nous, hein, les finales, ça se joue à un match, ça se joue. Il suffit que tu sois pas bien sur ce match et tout. Mais j'espère vraiment que la France va faire quelque chose. Après, il y a toujours les grosses nations qui sont là. Hein, on le voit sur les matchs qu'il y avait là entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. L'Argentine est allée gagner en Nouvelle-Zélande, des trucs incroyables comme ça. Donc l'histoire s'écrit à chaque match. Donc on est sûr de rien, mais on est quand même des bonnes prédispositions pour aller au moins en finale et essayer de gagner cette finale, quoi.
Et pour Rennes, l'objectif cette année?
Rennes, l'objectif c'est le maintien, il faut être lucide. On monte dans une catégorie où le rugby change encore, hein. On est monté de deux catégories d'un coup, donc c'est le maintien. C'est le maintien, on va jouer chaque match à fond, on sait qu'on est les petits poussés, on est les plus petits. Je crois qu'on a le plus petit budget dans les clubs
Ouais.
professionnels, je crois qu'on est vraiment le plus petit. Mais c'est en train de se structurer, on a l'équipe fait pour, il va falloir se maintenir, jouer chaque match à fond, à fond, à fond. Et puis on fera les points, on fera les comptes à la fin de la saison. Le but, c'est vraiment de maintenir ce club en national et de l'y installer pour les 2-3 prochaines années à venir.
N'empêche que c'est beau de voir quand même du rugby à Rennes, de monter comme ça en pro, et on pourrait parler de Vannes aussi, de voir le rugby monter jusqu'en Bretagne, parce que toi, de toute façon, t'es de Castres à l'origine.
Ouais, moi je suis de Castres, je suis
Ouais.
du Sud. Je suis un
Avant,
Breton.
c'était réservé dans cette zone-là, il y avait une petite zone en réservé, ça montait pas beaucoup, beaucoup, et là, on sent que ça monte, et on voit qu'il y a de la ferveur, que ça prend, hein.
Ouais, c'est en train de prendre, et puis je pense qu'aussi il y a des résultats. Van, ils sont en Pro D2, ils ont failli monter, pas l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a 2 ans. Ils ont failli monter il y a 2 ans, donc, et puis ça attire du monde. Et puis Rennes, c'est un peu bouché pour le moment parce qu'il n'y a pas trop de visibilité. Il y a d'autres sports, le foot, Ligue 1, Ligue des Champions, enfin, c'est normal, hein. Et puis même la mentalité, je pense que la mentalité bretonne n'est pas encore habituée au rugby.
Ouais.
Mais ça va venir, il faut qu'on est là, on a eu des résultats, on avait de plus en plus de monde au stade, des gens qu'on n'avait jamais vus pendant la saison régulière, qu'on a vus pendant les phases finales. C'est intéressant, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir quand il y a du monde, c'est qu'on est un peu considéré et que les gens se régalent aussi s'ils reviennent. Et donc, il faudra voir. Il faudra voir en s'installant en national. Je sais que il y a des matchs qui vont être diffusés. Peut-être que ça va donner envie à des gens de venir voir les matchs, en espérant produire du beau spectacle et que les gens aient envie de revenir aussi. Et puis parler aux amis, des amis et tout ça. J'espère que ça va prendre comme ça, une petite ferveur qui pourrait prendre autour de nous. Ce serait sympa, quoi.
Et puis voir les petits gamins qui, à 4-5 ans,
Ah ouais,
viennent
l'école
toucher
du
du
coup.
ballon et...
Ouais. Ils y étaient, ils y sont à chaque fin de match, quand on joue au Vélodrome, là, ils y sont, ils viennent nous voir, ils viennent nous taper dans les mains, ils ont des étoiles dans les yeux, les petits, c'est génial, hein. On était pareil, hein, quand on
Bah
avait
ouais,
4 ans,
c'est
et
ça en
maintenant,
fait.
on est à leur place. Et c'est incroyable, on sait ce que ça fait, quoi.
Tu les
Voilà.
entraînes des fois les jeunes ou pas ou...
Je les ai entraînés, moi, quand j'étais à Narbonne, je les ai entraînés toute une année.
Ouais.
Et là, quelquefois, on passe les voir sur les semaines off des entraînements, mais je sais qu'il y en a dans l'équipe qui préparent des diplômes et tout ça, et qui suivent des équipes toute l'année, hein.
Ouais.
Même qui suivent des équipes toute l'année. C'est bien, parce que humainement c'est bien, mais moi j'aime pas ça parce que je peux rien faire sur le terrain, c'est eux qui jouent et moi je peux rien faire, donc ça me frustre. Mais c'est bien, c'est une autre vision du rugby, hein. C'est une autre chose. Mais c'est sympa.
Et tu leur disais quoi, on va finir là-dessus, aux gamins que tu avais là à Narbonne, tu leur disais quoi sur...
En plus, moi, j'avais les premières années, donc ils commençaient le rugby. C'était vraiment les tout petits, donc c'était vraiment motricité, travailler la motricité, et puis c'était du rugby complètement décousu. Mais avec, moi, j'aime pas perdre, je déteste ça. Et dans une mentalité comme ça, je leur ai dit, moi, on joue pas les matchs pour perdre. Hein. Je sais que vous venez ici pour vous amuser, c'est le principal. Mais quand on joue un match, on gagne et tout ça, donc là, ils sont hyper motivés. Et puis, ils étaient contents de voir quelqu'un qui avait joué quelquefois en équipe une venir les entraîner. Et donc, voilà, leur dire qu'il fallait prendre le maximum de plaisir, qu'il fallait s'éclater et que surtout jouer, 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 parce qu'à cet âge-là, c'est vraiment du jeu. Hein. Du jeu, du jeu, du jeu, mais il faut déjà dire que les matchs, on ne les joue pas pour les perdre, on ne les joue pas pour regarder les autres jouer, quoi. Et voilà, c'est un peu ça qu'on leur disait. Et puis après, ils étaient petits, ils avaient 5-6 ans, de 5 à 6 ans. Et donc c'était très mignon, très très mignon et vraiment sympa, agréable, avec aussi la connexion avec les parents et tout, qui voient comment ça marche un peu, et ça c'était vraiment sympa.
Mais ben écoute, voilà, et c'est vrai que c'est par là que ça commence, hein, les jeunes qui ont les étoiles plein les yeux. Moi j'étais dans le foot, j'allais voir les pros à l'époque, etc., en me
Ouais.
disant ben, j'aimerais bien être un jour. Jouer en levée de rideau aussi, ce qui se faisait à
Ah
l'époque,
ouais, c'est
alors.
ça. Ouais, ça c'est sympa, ouais, c'est
Ouais.
sympa.
Qui fait partie aussi de l'apprentissage, hein, de se dire, oh, tiens, on joue dans le même stade que les pros après, derrière et autres. Des fois, on avait accès même pelouse ou des trucs comme ça. On dit, oh, punaise, on peut grimper, on a ces trucs-là, on a ces trucs. Et puis après, ben, y en a qui, comme toi, ont la chance pouvoir faire carrière. Je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous parce que c'était intéressant de voir aussi une autre phase. Parce que c'est vrai que le sport individuel, on a des habitudes, etc. Et il y a plein de trucs que tu as dit, tu sais, de ceux qui courent, qui ont des trucs super sérieux, etc. Ils disent, oh punaise, dans le rugby quand même, ils ont des trucs sympas. C'est pas le même mode de
Ah,
vie.
c'est pas la même rigueur certaines fois, ouais.
C'est peut-être pas la même rigueur, mais il y a d'autres contraintes aussi. Et je me rappellerai toujours d'un joueur de l'ASM qui revenait de plusieurs mois de blessure, et peut-être tu l'as vécu. Et un jour, il se dit, c'est quoi le plus dur quand t'as repris? Il a dit, c'est les chocs. Je me rappelais pas ce que ça faisait d'avoir ces
Ouais.
douleurs, d'avoir ces chocs, les
Ouais.
douleurs sur les jours. Je m'étais habitué à ne plus avoir mal au fil de la semaine.
Ça.
Et ça, je crois que ceux qui n'ont pas fait de rugby, ils se rendent pas compte de ça en fait.
Ouais, mais il y a ça fait mal. Mais je sais que en me levant le dimanche matin, si on a joué le samedi et que je suis mâché de mon match, c'est une sensation que j'aime avoir
Ouais.
et qui me manque si je l'ai pas. C'est un peu maso, hein, de dire ça, mais c'est. Je le dis souvent. Je pense qu'on est certainement drogué à notre sport, hein, quand on arrête. Quand on arrête, on n'est pas bien mentalement et physiquement, mais on est drogué à ça. C'est sûr et certain, et je comprends qu'en revenant, les chocs, ça fait presque peur si on a été arrêté longtemps, mais le corps se rappelle vite et se réhabitue vite. On a l'habitude.
Eh ben écoute, Pierre, en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi. Je sais pas si t'as un compte Instagram perso, si on peut discuter avec toi sur les réseaux, si.
Ouais, j'ai un compte Instagram perso où je poste souvent les photos de rugby, les photos des équipes, les trucs comme ça. C'est sympa. On est suivi par un photographe et même Jean Le Sachet qui s'occupe de notre com et qui fait des trucs sympas sur l'Instagram du REC Rugby. Ça aussi, c'est sympa, qui permet de suivre nos entraînements, nos matchs, les
Ouais.
compositions, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment sympa. Et après, voilà.
Eh ben écoute, moi je mettrai tous les liens. Ouais. En tout cas, je vais vous encourager, vous dire bonne chance pour cette saison.
Merci beaucoup.
Qui est une, oui, c'est vrai que c'est un sacré niveau. Hein. Ouais, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est le premier division professionnelle. Hein, on l'a peut-être pas dit, mais c'est la première division professionnelle, premier accès au professionnalisme. Et déjà en dessous, vous êtes déjà des athlètes de niveau, mais déjà encore là, ça monte encore plus. Et on voit déjà les niveaux d'exigence, les entraînements, le volume que c'est. Écoute, et puis la saison qui est longue, hein. Quel que soit ce que tu joues, parce que j'imagine qu'il y a peut-être même des play-downs peut-être dans ces niveaux-là ou.
Non. Là, non. En fait, c'est quand si tu finis dans les deux derniers, t'es mal, quoi.
D'accord. Il n'y a pas de match à couper là un petit peu entre les montées.
Je crois pas de National 2 à National 1, je crois pas. Ouais. C'est nouveau pour nous, donc je sais pas, mais je crois pas.
Ouais. Et écoute, et c'est déjà ça, hein, parce que franchement, c'est encore un truc où là, la peur de perdre quand tu descends en plus derrière, c'est encore plus terrible. Ouais. Ce que tu disais, l'émotion pour gagner un match, pour aller chercher ce bouclier, c'est un truc qui est intense. Mais quand tu joues avec la peur au ventre et que t'as la descente qui peut jouer,
c'est encore autre chose. C'est d'autres émotions, mais ça se joue aussi, ça fait partie du jeu.
Bah écoute, tu sais, moi je te souhaite que de jouer les matchs qui permettent d'aller chercher les boucliers.
Ah, merci, voilà. C'est gentil.
Et je te souhaite en tout cas une belle saison à toi et tes coéquipiers. Merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. Je mettrai bien sûr le lien dans un autre épisode pour ceux qui veulent aller vous soutenir, qui sont autour. N'hésitez pas à y aller, on mettra tous les liens comme ça. Et puis nous, écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. On parlera d'autres sports, d'autres sportifs. Peut-être pas tout à fait les mêmes rythmes de alimentaire, les mêmes rythmes d'entraînement, mais c'est vrai que chaque sport a sa spécificité et c'est intéressant de creuser tous les sports et de voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Merci Pierre.
Merci, au revoir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.